L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Isidore Rubinstein, docteur en pharmacie, membre de la Société française d'homéopathie, enseignant et auteur de nombreux ouvrages autour de l'homéopathie et d'officine, dont le dernier coécrit avec Hakima El-Jabli, Anne-Claire Frey et Anaïs Zeller, Face au cancer avec mon pharmacien, soins de support à l'officine. Isidore Rubinstein, bonjour.
Bonjour Valérie.
Ravi de vous retrouver. Vous avez longtemps animé une rubrique ici sur Radio Judaïka sur l'homéopathie. C'est ce que vous mettez beaucoup en avant dans votre pharmacie, parce qu'évidemment, il y a la pharmacie traditionnelle, mais vous croyez beaucoup en l'homéopathie.
Oui, moi j'y crois, je l'ai pratiqué, je l'ai étudié. Je l'ai enseigné. On est en plein actuellement dans une polémique contre l'homéopathie. On se demande pourquoi. Ça nécessiterait une analyse plus approfondie. Mais bon, il y a quelques années, nous avons eu les déremboursements de l'homéopathie, qui étaient curieux dans la mesure où le poids financier de l'homéopathie est extrêmement faible dans l'économie de la sécurité sociale. Ensuite, une polémique qui remet en cause cette médecine, je peux dire, qui existe depuis le début du 19e siècle, inaugurée et lancé et développé par Hahnemann, et qui jusqu'à aujourd'hui, et plus que jamais, repose sur de nombreuses études, et en plus de tous les cas cliniques. Mais je ne vais pas en rejeter plus, puisque comme vous l'avez dit, pendant près de 20 ans, j'ai animé tous les matins une rubrique, et que nos auditeurs n'ont plus rien à apprendre sur l'homéopathie.
Écoutez, on l'espère. Alors, aujourd'hui, on va parler du cancer, qui reste toujours aujourd'hui la cause de lutte essentielle dans la prévention, les traitements, l'aspect psychologique, les soins de support qui soignent les conséquences des traitements contre le cancer. Alors, on va parler concrètement du cancer. Aujourd'hui, cause numéro un, toujours en France. C'est Chirac, à l'époque, qui s'était mis dans cette lutte essentielle. Qu'est-ce que représente aujourd'hui le cancer en termes de chiffres?
Le plan Chirac, les derniers chiffres sur les années 2023-2024, c'est environ 450 000 nouveaux cas de cancer par an, presque 60% chez l'homme. Ça représente environ chaque année 180 000 décès. Les hommes emportent la palme avec environ 56-57%. La moyenne d'âge est quand même un peu plus élevée, 65-70 ans. C'est une affaire sérieuse, bien que la recherche scientifique avance, et que nous avons heureusement beaucoup de cas de rémission, et que cette maladie n'a pas encore livré tous ses secrets. C'est les maladies, évidemment, du système immunitaire, mais les espoirs en termes d'espérance de vie sont beaucoup plus intéressants qu'est-ce qu'ils étaient il y a 10 ou 30 ans.
Aujourd'hui, l'annonce d'un cancer à un patient n'est pas forcément signe de mort. Aujourd'hui, effectivement, vous le disiez, beaucoup de rémission, d'espérance de vie pour le patient. Est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le cancer le plus fréquent dans la population française et le cancer qui a les plus mauvais chiffres en termes d'espérance de vie?
Tous ces résultats sont obtenus d'un congrès, n'est-ce pas, à un autre. Ce qu'il faut dire, c'est que premièrement, nous avons une espérance de vie qui est beaucoup plus importante de ce qu'elle était il y a un siècle. Deuxièmement, aujourd'hui, et heureusement, la mortalité infantile n'est plus ce qu'elle était il y a un siècle. Donc nous avons beaucoup d'évolutions. Les maladies infectieuses, avec un petit bémol quand on pense au Covid-19, les maladies infectieuses ont quand même été, on va dire, presque vaincues, en tout cas elles sont maîtrisées. Et effectivement, cela a ouvert la porte à tout un tas de maladies du système immunitaire. Les plus bénignes sont les maladies allergiques. On n'a jamais eu autant d'allergies, Valérie, qu'aujourd'hui, dans tous les sens, donc que ça. Et évidemment, la maladie cancéreuse. La maladie cancéreuse, les plus classiques, mais peut-être les mieux connues aussi, celles qui ont les meilleurs pronostics, si elles sont dépistées, évidemment, le plus tôt possible. C'est pour ça que les campagnes de dépistage sont importantes. Mais on va parler de soins de support, on ne va pas parler de cancérologie. Mais ça, c'est aussi le rôle du pharmacien d'informer ses patients. Les maladies les plus courantes aujourd'hui en matière de cancérologie sont le cancer du sein chez la femme et le cancer de la prostate chez l'homme. Des maladies pourraient être beaucoup mieux maîtrisées, comme le cancer colorectal. Effectivement, la prévention du cancer colorectal Et celle, par exemple, du cancer du sein avec les mammographies régulières, ce sont des facteurs tout à fait importants dans la prévention de ces maladies. Et c'est le rôle du pharmacien, d'ailleurs, d'informer. N'oubliez pas, Valérie, on va y revenir, que le pharmacien est un professionnel de santé. Nous avons plus de 20 000 pharmacies en France qui sont ouvertes, j'ai envie de dire, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et n'importe qui peut rentrer dans n'importe quelle pharmacie et avoir toutes les informations, soit en termes de prévention qu'en termes de soins.
Tous les pharmaciens aujourd'hui sont en mesure de répondre à un patient qui cherche justement des soins de support pour contrer des effets secondaires d'un traitement de cancer.
Oui, alors attendez, j'ai une spécialité en homéopathie, certes, mais j'ai également une spécialité en ce qu'on appelle les soins de support. Et le livre donc, que nous publions, avec mes anciennes doctorantes, est un livre de soins de support dans lequel, effectivement, l'homéopathie a sa part, mais ni plus ni moins que tous les autres outils qui sont à la disposition des médecins et spécialisés en soins de support et accessoirement d'autres professionnels de santé pour prendre en charge les effets secondaires. Vous avez parlé du plan Chirac, vous avez parlé de la loi HPST, qui est la loi hôpital, etc., officine, qui permet de valider le rôle du pharmacien dans ce domaine. Les soins de support ont fait l'objet d'une publication scientifique par le professeur Krakowski, cancérologue, actuellement à Bordeaux, qui a expliqué que les soins de support sont toutes les techniques qui vont permettre d'améliorer la qualité de vie du patient cancéreux. Et ça, c'est hyper important. C'est quoi la qualité de vie? C'est mieux supporter les traitements, mieux anticiper tous les effets secondaires. Et donc, si nous améliorons la qualité de vie du patient, automatiquement, le pronostic sera amélioré par voie de conséquence. C'est ça les soins de support. Il n'est pas question que les soins de support remplacent les traitements académiques du cancer. C'est bien évident. Et il faut savoir qu'actuellement, dans tous les forums, dans tous les congrès de cancérologie, il y a aujourd'hui toujours, j'ai envie de dire, une page qui est réservée aux soins de support, que j'enseignais d'ailleurs à la faculté de pharmacie.
Les effets secondaires des traitements, autant d'effets que de traitements et de patients, bien évidemment, les plus courants, je veux dire le plus courant, la fatigue.
65% des patients sont touchés par la fatigue. Et alors là, vous mettez le doigt sur un problème très, très, j'ai pas envie de dire passionnant, c'est passionnant, mais très intéressant. Il faut peut-être faire la différence entre ce qu'on appelle la fatigue et l'asthénie. La fatigue, c'est un état passager, l'asthénie, c'est déjà quelque chose de plus médical. Et quand un patient va dire à son médecin, et pas seulement dans le cas du cancer, « Docteur, je suis fatigué », la première réponse ou à la pharmacie, écoutez, reposez-vous ou prenez peut-être un petit peu de vitamine C ou reboostez-vous. Et en vérité, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque 65% des patients se plaignent de cette fatigue qui peut être invalidante. Et là, il faut arriver à la qualifier, ce qui apparaît, vous l'avez vu, vous l'avez relevé dans le livre. D'ailleurs, vous commencez par cette question, c'est très symptomatique, dans la mesure où c'est peut-être le premier symptôme qui vous interpelle avant de parler peut-être de certains effets secondaires au niveau de la formule sanguine, parce que ça, c'est plus compliqué à aborder et peut-être à expliciter à l'antenne. Mais la fatigue, tout le monde sait que la fatigue. En fait, tout le monde sait et personne ne sait.
La fatigue, c'est aussi aujourd'hui un symptôme qui touche la population en général, parce que vous vous avez dit, on ne fait pas forcément le distinguo entre l'asthénie et la fatigue.
Et c'est pour cette raison qu'une de mes co-autrices, Anaïs Zoller, a soutenu il y a 2 ans, un peu plus, une thèse sur la prise en charge de la fatigue. Et là, on se rend compte, premièrement, que nous avons besoin d'échelles de valeurs qui vont permettre de la qualifier et de la quantifier et de savoir comment la prendre en charge. On peut être fatigué parce qu'évidemment, on n'a pas bien dormi dans la nuit, on s'est levé très tôt pour être à l'heure à l'antenne, mais on peut être aussi fatigué suite au traitement, suite à la maladie, et quoi faire pour aider le patient à retrouver, j'ai envie de dire, la pêche. Parce que le patient qui va réussir à vaincre cette fatigue, ça lui permet de retrouver le moral, ça lui permet de reprendre son activité physique classique. Et là, nous avons tout un tas d'éléments qui vont nous permettre de la qualifier. Êtes-vous fatigué le matin? Êtes-vous fatigué le soir? Avant le repas? Après le repas? En montant les escaliers? En faisant du sport? Et ça, c'est hyper important dans, j'ai envie de dire, la qualité de vie du patient. Et là, nous avons tout un tas d'outils qui commencent au conseil. Maîtrisez votre fatigue. Il vaut mieux faire une sieste très courte en début d'après-midi, pas trop près du repas, parce qu'il vaut mieux bouger pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour pour digérer, mais une petite sieste, mais qui ne doit pas être trop longue pour ne pas perturber le sommeil nocturne. Conseil de bon sens, quoi manger, comment manger, à quel moment manger, mais aussi ensuite, une fois qu'on aura passé en revue les conseils de bon sens, n'est-ce pas, quels produits peuvent nous aider de phytothérapie, de plantes, d'aromathérapie, d'homéopathie, de certains exercices physiques, jusqu'à des médications peut-être un petit peu plus fortes. Mais il est hyper important de la prendre en charge dans la vie du patient. Et nous voyons autour de nous beaucoup de gens qui se plaignent de troubles du sommeil, ça n'a rien à voir avec le cancer, et qui sont extrêmement invalidants dans leurs activités au quotidien.
Pour être pris en charge avec l'homéopathie, la phytothérapie, vous le disiez, l'aromathérapie, les besoins aujourd'hui d'une ordonnance où vous pouvez prodiguer les conseils en tant pharmacien d'officier.
Là, vous mettez vraiment le doigt sur le problème. Nous avons deux sens, vous l'avez vu dans le livre, il y a deux sortes de cas. Le premier cas, c'est une personne à qui on va annoncer qu'elle a effectivement un cancer. Et il faut savoir que pour le patient, l'annonce d'un cancer est terrible. Il ne faut pas avoir peur des mots. Cancer, c'est une très très mauvaise nouvelle pour ne pas dire voilà, qu'est-ce qui va m'arriver.
Ce n'est pas seulement une longue maladie.
De toute façon, il faut savoir, Valérie, qu'à partir du moment où on vient sur Terre, on sait très bien qu'un jour on va partir. Il faut quand même voir ça avec un peu de philosophie. Sauf que quand on annonce à un patient qu'il est malade et surtout qu'il est confronté à une maladie redoutable, l'échéance paraît plus réelle et les clignotants sont peut-être plus visibles que de dire à quelqu'un qu'en parfaite santé, de toute façon, un jour ou l'autre, il va bien falloir faire sa valise. Bon. Le patient à qui on annonce cette maladie, évidemment, le vit comme un véritable traumatisme qu'il faut être capable de prendre en charge. Il faut savoir qu'à l'hôpital, ils sont complètement débordés. Et même quelque chose qui est un petit peu déplaisant, mais c'est incontournable, c'est que souvent aujourd'hui, le cancérologue va se décharger au niveau de ce qu'on appelle les infirmières d'annonce pour annoncer une nouvelle, alors que le patient aurait quand même préféré avoir une discussion directement avec son médecin qui va lui expliquer ce qui se passe. Et là, il y a une très, très grande frustration. Et là, souvent, c'est là qu'il va venir à l'officine, chez son pharmacien, et il va lui expliquer ce qui lui arrive. Et là, nous avons évidemment un rôle fondamental à jouer. Et puis ensuite, il y a le patient qui a commencé ses premiers traitements, radiothérapie, chimiothérapie, éventuellement chirurgie, et qui vient aussi à l'officine. Et là, il faut savoir que nous avons des médecins spécialisés en soins de support. Il y a dans un certain nombre de centres hospitaliers d'oncologie des consultations dites de soins de support pour aider justement les patients à prendre en charge leur maladie. On y trouve des psychologues, on y trouve les fameuses infirmières d'annonce, des kinés, très peu de pharmaciens en milieu hospitalier, des dermatologues pour les effets secondaires au niveau cutané, etc., etc., et des acupuncteurs pour la douleur, certains médecins homéopathes, et le patient va se trouver face à toute cette équipe. Et là, souvent, il viendra dans une officine avec une ordonnance complète qui va, justement, prendre en charge son état clinique. Alors, je m'explique, l'ordonnance de soins de support, généralement, elle est toujours composée de la même manière. Le médecin va écouter la plainte du patient, et puis il va voir aussi ce dont le patient ne lui parle pas, puisqu'il a accès à son dossier médical. Le patient ne se rend pas compte, par exemple, que sa formule sanguine peut être déficiente au niveau des plaquettes, au niveau des globules rouges, où il peut y avoir des problèmes au niveau des globules blancs. Ça, il ne s'en rend pas compte. Le patient, il se lève le matin, s'il est en pleine forme, peu importe sa biologie, c'est son ressenti. Et d'ailleurs, entre parenthèses, nous avons un paradoxe. Nous avons des patients qui sont en pleine forme et qui ont une biologie qui est très inquiétante. Puis nous avons des patients qui sont au fond de leur lit grabataires, qui n'ont pas le moral, qui sont complètement cassés, fatigués, on en parlait, et puis qui ont des traceurs extrêmement bons. Et le patient, en fait, se moque complètement de ses analyses et son ressenti au quotidien qui est important. Et là, le médecin en soins de support va travailler justement sur le ressenti du patient et le dossier qu'il reçoit. Et il va construire son ordonnance en conséquence. Première chose, première plainte du patient, on parlait de la fatigue. Ben, docteur, je suis fatigué, c'est mon problème, et ça revient tout le temps dans la consultation. Il va prendre en place cette fatigue, et en fonction de la plainte du patient et de son analyse, ben, il va choisir quels sont les meilleurs remèdes à proposer à son patient. Homéo, phyto, acupuncture ou médication plus lourde, plus classique, plus allopathique. Il va prendre en charge également, par exemple, au niveau des effets secondaires, le plus courant également, nausées, vomissements, angoisse. Troubles du sommeil, qui sont liés à la fatigue dont nous parlions, troubles cutanés, premier axe, prise en charge des effets secondaires des traitements. Deuxième axe, essayer de drainer ce qu'on appelle les émonctoires, le foie et les reins, Puisqu'il faut savoir, Valérie, qu'une chimio classique, c'est 10 plaques de chocolat d'un coup sur le foie. Vous êtes certainement une bonne cuisinière et vous savez qu'est-ce qui se passe quand vous avez fait un super repas. Eric vous dit, Valérie, on va se partager le travail, tu vas faire la sieste et moi je vais aller dormir. C'est normal, il a le foie qui est chargé. Donc drainer le foie, drainer les reins. Deuxième aspect. Et troisième aspect, protéger le traître. Et c'est qui le traître ? Le système immunitaire. Le système immunitaire qui a trahi. Et il faut éviter qu'il continue à trahir. Et là, nous avons des techniques différentes pour pouvoir le protéger d'une part, et deuxièmement, pour pouvoir le stimuler. Et toutes les ordonnances de soins de support sont toujours construites sur ce schéma, prise en charge des effets secondaires, drainage des émonctoires, foie rein, et protection et stimulation du système immunitaire.
Cet ouvrage « Face au cancer avec mon pharmacien », il a été construit avec différents médecins, on le disait, dont vous, Isidore Rubinstein, avec la partie de pharmacie d'officine. À qui il s'adresse ?
Alors, ce qui est intéressant, cet ouvrage, il a une histoire, si vous me permettez. Il y a exactement 2 ans, j'ai été contacté par l'ARS de Guadeloupe, l'Agence régionale de santé, qui se retrouve avec un nombre très, très insuffisant de cancérologues et qui voulait impliquer les pharmaciens d'officine dans le parcours de santé du patient. Et j'ai été contacté via la faculté de pharmacie qui leur a dit, ben voilà, on a quelqu'un qui enseigne cette... Ce domaine chez nous, et ils m'ont donc contacté pour que nous organisions un enseignement. Et c'est comme ça, évidemment, à distance, j'aurais bien aimé y aller, mais c'était à distance derrière un ordinateur, où j'ai animé 2 séminaires chaque fois de 8 heures qui ont réuni 80 pharmaciens pour justement qu'ils puissent mettre en place ce parcours de santé, expliquer aux patients qui sortaient de la consultation de cancérologie comment prendre leurs médicaments, les prendre en charge au niveau des effets secondaires, et ensuite, éventuellement, prendre en charge tous ces effets secondaires à travers les soins de support. Et ces 2 séminaires que j'ai animés m'ont contraint à rédiger un PowerPoint de plus de 500 diapositives. C'est un énorme travail, mais évidemment tout à fait passionnant. Et c'est, vous le sentez, c'est un domaine dans lequel on a envie de s'investir pour aider les patients. À la fin de ce séminaire, on m'a demandé pourquoi vous n'en faites pas un livre. Quelle bonne idée! Je téléphone entre 12h15 et 12h30 à 3 de mes anciennes doctorantes en leur disant « Voilà, Anne-Claire, vous avez fait une thèse magnifique en 2009 sur les effets secondaires des radiothérapies. Akima, vous avez fait une thèse magnifique sur les effets cutanés de tous les traitements anticancéreux. Anaïs, vous avez fait une thèse magnifique qui a été soutenue également à la faculté de pharmacie et brillamment sur la fatigue. » Est-ce que vous ne voulez pas qu'on fasse quelque chose ensemble, puisqu'on a travaillé, et puis vous connaissez bien ces domaines, et vous avez vos thèses qui sont récentes et qui sont rédigées. Là, elles m'ont dit, toutes les trois, la même chose, c'était extraordinaire. Pour repartir avec vous, pour une nouvelle aventure, on y va. Et c'est comme ça que l'idée du livre est sortie. Nous avons travaillé pendant 2 ans. Évidemment, nous avions les bases, moi, de mes cours, et différents entretiens, conférences et enseignements, plus les 3 thèses donc, que je viens de vous évoquer. Et c'est comme ça qu'après 2 ans de travail, le livre a été rédigé et qu'il a été paru. Alors c'est original parce que c'est la première fois qu'il y a un livre de ce genre qui s'adresse à l'officine. Vous voyez, sur la couverture, nous avons une patiente qui rentre dans une officine.
Qui rentre dans une pharmacie qui est très, très, très éclairée.
Qui est très éclairée. Et à la fin du livre, vous avez, d'ailleurs, si vous regardez bien, de chaque côté dans les vitrines, tous les éléments qui ont été décrits dans le livre. Et alors l'officine, c'est quoi ? Le livre, il s'adresse évidemment aux pharmaciens, il s'adresse à son équipe, il s'adresse aux étudiants en pharmacie, mais il s'adresse surtout... directement et indirectement au patient. Parce que le patient, comme nous le disions tout à l'heure, qui rentre dans une officine et qui souffre et qui a mal et à qui on a annoncé cette maladie aux nombreux paradoxes, et on les évoquera si vous voulez dans 2 minutes, les paradoxes de la maladie cancéreuse, le patient y rentre, il s'intéresse à sa maladie, il va en savoir plus. Alors aujourd'hui, comment il sait ? Je me rappelle d'une patiente qui était venue nous voir et qui on avait annoncé un cancer du sein, qui m'a avoué avoir passé 48 heures non-stop devant son ordinateur pour voir tout. Donc Internet, quand on n'est pas dans le domaine, c'est aller dans la rue. C'est tout et n'importe quoi. Le patient ou n'importe quelle personne qui utilise ce système, que ce soit pour changer l'embrayage de la voiture ou pour n'importe quoi, si on n'est pas du métier, c'est tout et n'importe quoi. Donc là, le livre s'adresse justement à ces patients qui s'intéressent à leur maladie, mais qui veulent avoir un cadre rigoureux, scientifique validé, et qui leur donne une information. Ça, c'était, si vous voulez, le but de ce livre, et d'où son originalité.
Et de voir effectivement les différents symptômes, les différents cancers, la prévention également. C'est important, on n'en a pas parlé, mais on n'aura pas le temps d'en parler. Ce livre, où est-ce qu'on peut le trouver face au cancer avec mon pharmacien?
Ce livre, vous le trouvez dans n'importe quelle librairie, au niveau des pharmacies du groupe Univers, puisqu'il a été édité en collaboration avec les pharmaciens de ce groupement, très, très facilement se le procurer.
Isidore Rubinstein, merci infiniment d'être passé nous voir. C'était un petit peu rapide parce que ce sujet, évidemment, vous le disiez, vous avez fait des thèses et des présentations qui ont duré des heures. On est obligé, évidemment, nous, de le ramener à un niveau radiophonique et d'en parler pour le plus grand nombre. En tous les cas, merci d'être venu nous voir. Merci également pour la rédaction de ce livre « Face au cancer avec mon pharmacien » que vous avez coécrit avec Hakima El Jabli, Anne-Claire Frey, Anaïs Zeller. Et ce livre qu'on peut trouver, vous le disiez, dans toutes les bonnes librairies.
Merci beaucoup Valérie. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand on est un professionnel de santé, notre credo, c'est nous devons aimer nos patients.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.